Alors, la question du jour est à quoi bon l'Église ? Pourquoi cette question se pose-t-elle ? C'est parce que de nos jours, beaucoup de nos contemporains, chrétiens ou non, feraient très volontiers leur une citation très fameuse d'Alfred Loisy, un exégète du début du XXe siècle, qui quelques années plus tard fut excommunié. Cette citation est « Jésus annonçait le royaume ». Et c'est l'Église qui est venue. Jésus annonçait le royaume, et c'est l'Église qui est venue. 4 ans plus tard, Alfred Loisy était excommunié, et sans doute d'ailleurs pas à tort, loin de là. On voit assez bien en quel sens l'opinion commune reçoit cette citation, qui par ailleurs fait l'objet de débats en ce qui concerne les historiens au sujet d'Alfred Loisy. On discute pour savoir exactement ce que Loisy voulait dire par là. Mais on voit en revanche très clairement comment de nos jours est reçue une telle affirmation. Beaucoup se représentent l'Église comme une vaste organisation non gouvernementale, parfois aussi comme une organisation gouvernementale, il faut bien le dire. En tout cas, une organisation qui aurait été créée par les chrétiens et non par le Christ. Et souvent, on se représente Jésus comme un prédicateur itinérant, un peu anarchiste, en délicatesse avec l'organisation hiérarchique du peuple juif, qu'il a fait condamner à mort, et par conséquent, qui serait très éloigné de vouloir fonder une société internationale répandue sur tous les continents et organisée hiérarchiquement, ce que, de nos jours, on appelle l'Église, en tout cas l'Église catholique. Dès lors, se pose la question de la raison d'être de l'Église. Si l'Église n'a pas été fondée par le Christ, alors il n'est plus possible de justifier son existence en se référant à un dessein que le Christ aurait sur elle. D'où bientôt l'idée que même si c'est à l'Église que nous devons d'avoir entendu parler du Christ, on pourrait peut-être se référer au Christ en dehors de toute participation à la vie ecclésiale. On pourrait par exemple, se passer d'aller à la messe régulièrement. On pourrait également se soustraire à toute autorité doctrinale. On pourrait croire ce que l'on pense que le Christ a enseigné et non pas ce que l'Église nous enseigne qu'il a enseigné. On pourrait également se passer de toute discipline ecclésiastique. Je mange bien ce que je veux le vendredi. Ce n'est pas important, ce n'est pas ce que le Christ est venu nous enseigner. Et de manière générale, on dira « je veux bien croire en Jésus-Christ, mais pas à l'Église ». À quoi bon l'Église ? À quoi sert l'Église ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'en passer ? Alors ce que j'ai dit sous une forme savante, on peut le retrouver sous une forme plus espiègle et plus populaire dans une blague que j'ai entendue il y a quelques années aux Grosses Têtes, je l'avoue, je le confesse. Et si mes souvenirs sont bons, elle était racontée par le chanteur Carlos, fils de Françoise Dolto, bonne chrétienne et lui-même bon chrétien. Et une blague très instructive, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour cette plaisanterie. Je la dis, mais vraiment sans animosité aucune. Cette blague se racontait avant le décès de feu Jean-Paul II. Et donc cette blague commence par Jean-Paul II décède, il n'était pas encore mort, mais on imagine. Et aussitôt, il arrive au ciel. Il arrive au ciel et là, il voit Pierre, Saint-Pierre, et il se précipite vers Saint-Pierre, les bras tendus, en disant « Dans mes bras, Saint-Pierre !» Vous voyez, selon sa manière. Et Saint-Pierre lui dit « Arrêtez-vous, monsieur, s'il vous plaît. D'abord, présentez-vous, dites-moi qui vous êtes. Je suis Jean-Paul II. » « Jean-Paul comment, s'il vous plaît ?»« Jean-Paul II. Pourquoi Jean-Paul II ? Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes roi ? Ben, je suis le pape. » « Le pape ? Qu'est-ce que c'est que ça, un pape ?» Alors Jean-Paul II commence à tout lui réexpliquer, la succession de Saint-Pierre, les apôtres, les évêques, etc., la tradition, l'histoire de l'Église, tout depuis le début. Et au bout d'un moment, Saint-Pierre prend un air méditatif et dit « Ah, je vois ». Alors il prend son téléphone, il y a un téléphone de communication, il fait un numéro et il appelle « Allô, Dieu le Père ? Oui, tu te rappelles la petite affaire qu'on a montée, ton fils et moi, il y a à peu près 2000 ans ?» Eh bien, figure-toi, elle marche toujours. Voilà. Alors, cette plaisanterie, Ah, méchante, un petit peu espiègle. C'est intéressant, tu as plusieurs titres. Il y a un premier élément comique, c'est la surprise de Saint-Pierre, qui ignore l'existence de l'Église, après tout, du pape, de l'Église, etc. Il ne va pas savoir que ça existe. Donc il y a là une remise en question de l'idée que l'Église serait bien dans la continuité du projet du Christ. Ça ne va pas de soi. Voilà. Et ça, c'est, je pense, une opinion assez couramment reçue. Deuxième élément, il y a un contraste entre la situation de l'Église et son état originel. Originellement, qu'est-ce que c'était ? Tout petit groupe, quelques disciples autour d'un certain Jésus. Et depuis, c'est un vaste peuple très important, réparti sur tous les continents. Alors, parfois, ça tangue un peu, hein, il y a du roulis. Mais bon. Et à l'arrière-plan de ce constat, d'un contraste entre l'Église d'origine et l'Église d'aujourd'hui, il y a là aussi une critique implicite. L'Église serait une espèce d'invention humaine, vous voyez, qui se serait greffée sur ce que le Christ avait fondé. Il y a eu la petite affaire. Ça existe toujours, mais enfin, c'est très différent. Il y a un troisième élément qui, ici, tient peut-être à la présentation des choses. L'Église fonctionnerait comme une espèce d'entreprise. Hein, c'est la petite affaire, c'est devenu une grande entreprise internationale. Voilà. Le petit garage est devenu General Motors. Enfin, General Motors, ça ne marche plus très bien. Donc, enfin, c'est devenu... Volkswagen. Voilà. Donc, c'est devenu un grand groupe qui marche bien. Donc, il y aurait une dérive un peu bureaucratique, vous voyez, de ce qu'était le petit peuple des origines. Et enfin, il y a quand même un quatrième élément. C'est pour ça que j'aime bien cette plaisanterie, parce que les Français, les chrétiens, pas très pratiquants, sont quand même assez attachés, après tout, à l'Église, même s'ils sont à distance d'elle. Et il y a quand même un étonnement, un certain émerveillement face à la perpétuité de ce phénomène. L'Église, elle continue, elle traverse les âges, elle est toujours là. Alors il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais même les chrétiens un petit peu éloignés de la pratique, vous voyez, ils aiment bien que ça continue. Voilà, ils aiment bien être un peu à distance, ils aiment bien être sur le bord, mais ils aiment bien que ça continue. Hein, la petite affaire, elle continue d'exister. Et au fond, ça ne leur déplaît pas. Je crois qu'il y a là, dans ce rapport à l'Église, quelque chose de très, très français, très propre à notre culture, et je dirais à ce catholicisme sociologique moyen français qui était encore assez, qui a beaucoup perdu en termes de pratiques religieuses, mais qui continue quand même d'exister. Voilà. Alors la question qu'il convient de poser maintenant, que je vais poser, c'est est-ce que l'Église a vraiment été voulue par le Christ ? Mon père, c'est à vous que je m'adresse. Si oui, dans quel but ? Quel dessein du Christ justifie l'existence de l'Église ? Et puis, à l'arrière-plan, quelle est la juste attitude que le chrétien doit avoir à l'égard de l'Église catholique, sachant que beaucoup de chrétiens, justement, regrettent des périodes où l'on obéissait un peu aveuglément à un clergé qui avait un rapport autoritaire aux fidèles. Et on comprit, je pense pas tout à fait à tort, que ce n'est pas vraiment ce qu'attend l'Église d'eux, une obéissance aveugle sans discernement. Donc, mon père, je vous cède la parole pour répondre à toutes ces questions.
Merci. Votre petite histoire sur Jean-Paul II me rappelle une anecdote vécue. Quand j'étais au séminaire, j'étais séminariste sous Jean-Paul II, j'étais à Rome. Le pape est venu en visite au séminaire. Et c'était donc le pape Jean-Paul II. Et l'un d'entre nous avait été désigné pour lui faire un petit mot d'accueil. Alors, il nous avait demandé, au supérieur, comment il fallait commencer son petit mot. Le supérieur a dit, tu dis très Saint-Père, et puis ensuite, tu diras ce que tu as préparé. Voilà. Et le pape arrive, et le séminariste tremblant prend le micro et commence, très Saint-Pierre. Et le lien entre Jean-Paul II et Saint-Pierre était donc avéré dès le début. Voilà. Je voudrais procéder en trois temps dans ce que je vais vous dire. Je voudrais me demander d'abord qui pose la question. Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est quelqu'un d'un peu perfide qui a choisi ce titre.
C'est moi.
Voilà. Donc j'aimerais m'interroger avec vous sur la question qui pose cette question ou qui s'exprime de la sorte. Et puis ensuite, je dirai quelques mots de ce que j'appelle le principe Église. Et puis je terminerai sur ce que j'appelle les opacités de l'Église. Alors, qui peut bien poser cette question? Il me semble que pour traiter le sujet, il faut se demander sur les lèvres de qui cette expression peut se retrouver. Elle peut apparaître d'abord dans un registre plutôt politique, chez ceux qui considèrent que la société politique se suffit à elle-même et qu'elle n'a pas besoin en son sein de corps étrangers. Et dans ce cas-là, il en va de l'Église un peu comme de Dieu dans la réponse qu'on prête à la place à la question de Napoléon au sujet de son système du monde. « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Voilà. Donc comme le cosmos de la place n'a pas besoin de Dieu, la société n'a pas besoin d'Église pour fonctionner. Donc à quoi bon l'Église? Alors déjà, il y a divergence avec la vie de l'Église sur elle-même, du moins dans la conception catholique, car le catholicisme a cette originalité de tenir à la fois que l'Église n'a pas vocation à se confondre avec la société, c'est la fameuse distinction entre Dieu et César de Matthieu 22, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et en même temps que la société civile et l'Église sont appelées non pas simplement à coexister en s'ignorant mutuellement, mais à coopérer l'une avec l'autre, parce qu'elles visent l'une et l'autre le bien des personnes. C'est ce que dit le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, 76. Sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Mais toutes deux, quoiqu'à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Et elles exerceront d'autant mieux ce service pour le bien de tous, voilà la notion de bien commun, qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération. L'homme, en effet, n'est pas limité aux seuls horizons terrestres, mais il conserve intégralement sa vocation éternelle tout en vivant dans l'histoire humaine. Autrement dit, la distinction entre Église et société n'est pas une séparation pour l'Église. La distinction, mais il n'y a pas de séparation. Car s'il y avait séparation, ça voudrait dire que la dimension transcendante de l'humanité est comme surajoutée et qu'elle ne fait pas partie de la vie des hommes. Et voilà pourquoi, au passage de Matthieu 22 que je citais, César et Dieu, il faut en ajouter un autre qu'on cite parfois moins souvent, c'est la réponse de Jésus à Pilate. Pilate dit à Jésus qu'il a le pouvoir de le relâcher, le pouvoir de le crucifier. Et Jésus lui répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Voilà. Ce qui veut dire que les responsables politiques, comme les responsables ecclésiaux, ont des comptes à rendre au-delà de leurs responsabilités à la même instance, qui est l'instance divine. Comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, « Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Romains 13, 1, ce qui veut dire que celui qui exerce l'autorité même civile a des comptes à rendre à Dieu. La question « à quoi bon l'Église ?» pourrait venir aussi de politiques qui perçoivent les chrétiens et les catholiques donc comme des trublions. Voilà, la société va son chemin. Qu'est-ce que c'est que ces trublions qui viennent se mêler de nous dire des choses ? Mais cette version un peu plus agressive du « à quoi bon l'Église ?» Par exemple, la fameuse formule « écrasons l'infâme » que Voltaire mettait en bas de chacune de ses lettres. Cette version agressive, finalement, se ramène à la première catégorie, celle qui considère que le monde d'ici-bas se suffit à lui-même. Et donc, que sont ces trublions qui viennent nous parler d'autre chose et nous dire ce que nous avons à faire ou à ne pas faire? Simplement, dans cette seconde attitude, on constate qu'il y a quelque chose de rémanent dans le besoin d'Église. Et on va peut-être décider, de façon un peu plus musclée, de faire l'éducation du bon peuple en lui apprenant à s'en passer, fût-ce en le forçant un peu. Éventuellement, pour lui substituer une église laïque. Je cite un passage d'Edgar Quinet, L'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Ce texte d'Edgar Quinet pourrait paraître obsolète s'il n'était cité par notre ministre de l'Éducation nationale dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée ». Edgar Quinet non plus. La question « à quoi bon l'Église ?» peut aussi apparaître dans un registre individuel, religieux ou non. Dans la version non religieuse, on peut avoir affaire à un tenant de l'ordre moral qui, constatant que tout fout le camp, se désole de l'impéritie des clercs, pourtant préposée par nature à la mise au pas des populations. À quoi bon l'Église ? Si, non contente de nous asséner ses élucuprations théologiques, elle n'est pas fichue de mettre au moins un peu de respect de l'autorité dans la société. Ça nous ramène plus ou moins au premier registre. Mais le plus intéressant, bien sûr, c'est la version religieuse de la question. Pour faire bref, l'idée selon laquelle la dimension verticale du religare, relié, si religion vient de relier, c'est très contesté et sans doute contestable, la dimension verticale, moi et mon Dieu, se passerait fort bien de sa dimension horizontale, moi avec les autres, tourné vers Dieu. Voilà. Puisque l'Église, c'est d'abord l'assemblée de ceux qui, ensemble, se tournent vers Dieu. Notons que cette conception, moi et mon Dieu, et puis les autres ne m'intéressent pas, cette conception est extrêmement récente. Elle est liée au phénomène d'individualisation qui caractérise la modernité et dont les origines ne remontent pas beaucoup plus haut que le XVIe siècle. C'est une idée étrangère au Moyen-Âge et à l'Antiquité, comme le montre une réflexion très caractéristique de saint Augustin sur ce qu'il appelle la vraie religion. Voici ce qu'il écrit, c'est dans les Retractationes, les Révisions. La réalité même qu'on appelle maintenant la religion chrétienne existait jadis, même chez les anciens. Dès les origines, elle n'a pas fait défaut au genre humain jusqu'à ce que le Christ vienne dans la chair. Et c'est alors que la vraie religion, qui existait déjà, a commencé de prendre le nom de chrétienne. Autrement dit, le Christ est venu spécifier une religion dont saint Augustin dit qu'elle existe depuis toujours, et qui est simplement le fait de se retrouver ensemble pour se tourner ensemble vers la divinité. Donc l'apparition de l'Église, pour Augustin, n'est que le parachèvement d'un processus déjà présent dans l'humanité, parce que fondé sur quelque chose que tous les êtres humains ont en commun. En d'autres termes, il y a dans l'homme comme un principe Église qui découle de son humanité même. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le Nouveau Testament, quand il utilise le mot « ecclésia », le mot grec « ecclésia », pas souvent d'ailleurs, se contente de reprendre un terme du vocabulaire civil. Puisque dans la cité grecque, à Athènes, l'ecclésia, c'était tout simplement l'assemblée des citoyens qui possédaient et qui exerçaient ensemble la souveraineté en se réunissant chaque semaine sur la Pnyx, une colline d'Athènes, pour légiférer. Donc un mot du vocabulaire profane a désigné cette réalité, pour nous éminemment religieuse, qu'on appelle l'Église. Donc comment va-t-on du principe Église à l'Église ? C'est mon deuxième point. Ce principe Église, la foi catholique l'exprime, donc c'est cette réalité qui préexiste non seulement au Christ, mais même à la révolution, à la révélation de l'Ancien Testament. Ce principe Église, la foi catholique l'exprime en affirmant que l'Église est préfigurée dès l'origine du monde. On lit dans le catéchisme de l'Église catholique « Le monde a été créé en vue de l'Église ». C'est une citation de pas mal d'écrits des premiers siècles. « Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine, communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ, et cette convocation, c'est l'Église. Voilà. » Donc Dieu, en créant, a le projet de rassembler les hommes dans ce qu'on appelle une convocation. Et effectivement, le mot « église » veut dire « convocation », pas simplement « assemblée », assemblée en grec, c'est plutôt synagogue, qui a donné synagogue, mais convocation. Voilà. Dieu convoque l'humanité à entrer dans cette communauté. Donc, d'une certaine manière, ce projet est présent depuis toujours dans le cœur de Dieu. Et s'il est présent dans le cœur de Dieu, ça veut dire qu'il l'imprime aussi dans le dynamisme des communautés humaines. Alors, regardons cela. Dans les communautés humaines, il y a une inclination naturelle, pourrait-on dire, à vivre en société. Au début de sa politique, Aristote qualifie l'homme, c'est bien connu, de zoon politikon, voilà, un être vivant politique, un être sociable par nature. Et Cicéron, en s'inspirant d'Aristote, écrira dans le De Officiis, « La même nature, par le moyen de la raison, attache l'homme à l'homme, en vue d'une communauté de langage et de vie. Elle lui inspire de l'amour pour ceux qui sont nés de lui, l'amour parental pour les enfants. Elle le pousse à faire des réunions, des assemblées et à les fréquenter. » Voilà. Donc il y a un tropisme humain, non seulement au vivre ensemble, mais au fait de se réunir ensemble. Et saint Thomas, reprenant tout cela, voit dans cette caractéristique le signe que l'humanité est faite pour l'amitié, l'affection et l'amour. Elle n'est pas faite pour s'entre-déchirer, elle est faite pour être réunie par des liens d'amitié. Et il en déduit que la première réalisation de la société, c'est la famille, à partir de laquelle le lien social va s'étendre aux autres communautés. Et selon lui, comme déjà selon Aristote, la fin de la loi civile, c'est de susciter entre les citoyens une amitié fondée sur la justice et les autres vertus. Alors, selon la révélation biblique, cette inclination naturelle a été mise en l'homme par le Dieu créateur lui-même, mais dans le dessein de façonner à partir d'elle une réalité totalement neuve. Et c'est exprimé par le Concile Vatican II dans ces termes « À toute époque et en toute nation, notez le mot nation, nation c'est une communauté, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. » Cependant, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. C'est un texte récurrent dans Vatican II. Vatican II, il apparaît trois fois. Voilà. Donc, en toute nation, Dieu, évidemment, tient pour agréable ceux qui se tournent vers lui. Mais ça ne lui suffit pas. De ces personnes présentes dans les nations, il veut faire un peuple. Voilà. Il y a les nations au pluriel et le peuple au singulier. Les nations, ce sont ces communautés humaines naturelles, pourrait-on dire, liées par une histoire commune, une culture commune, des intérêts communs. Mais le peuple au singulier, c'est cette communauté humaine que Dieu vise comme la communauté définitive et qui donc transcende les nations. Et cette communauté humaine, Dieu va commencer à la créer dans un acte que l'Écriture appelle l'élection. L'élection, c'est quoi ? C'est un choix de Dieu qui se porte d'abord sur des personnes. Une personne célèbre, c'est Abraham. Voilà. Dieu choisit Abraham. Et ensuite, le choix de Dieu se porte vers une communauté humaine qui est issue d'Abraham. De toi, je ferai un grand peuple, dit Dieu à Abraham. Et cette communauté humaine, puisqu'elle est élue, elle est mise à part au sein des nations. En un sens, c'est un privilège, celui d'une alliance singulière, d'une intimité singulière avec Dieu. C'est aussi, de façon un peu moins claire, une mission. Ce n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une mission, parce que cette communauté devra témoigner de ce Dieu au milieu des nations. Et c'est enfin une anticipation. Car le privilège accordé à Israël fait d'Israël comme un prototype. Prototype de quoi ? De ce qui est destiné à l'horizon de l'histoire, à l'humanité tout entière. Israël est un prototype. Comme on dit, le prototype d'un avion, d'une voiture. La naissance de l'Église est attestée par le Nouveau Testament comme découlant de la volonté expresse du Christ. Alors le texte le plus clair, c'est la confession de Pierre à Césarée qui nous est rapportée par l'évangéliste Matthieu au chapitre 16. Vous vous souvenez de ce texte ? Jésus demande à ses disciples ce que les hommes disent à son sujet. Il fait un petit sondage d'opinion. Qu'est-ce qu'on dit à mon sujet ? Et les disciples lui rapportent les opinions qu'ils ont entendues. Pour les uns, tu es Moïse, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et puis, deuxième étape, Jésus leur demande de dire non plus ce qu'ils ont entendu à son sujet, mais ce que eux-mêmes pensent à son sujet. Qui suis-je pour vous ? Et Pierre, brûlant la politesse aux autres, répond : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là que ça devient fort intéressant, parce que Jésus, vous en souvenez, dit à Pierre : Heureux es-tu, c'est une béatitude. Heureux es-tu, non pas parce que tu as donné la bonne réponse, mais parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre a bénéficié d'une révélation. Voilà. Il n'a pas appris une réponse, il ne l'a pas trouvée tout seul, il a bénéficié d'une révélation. Et cette béatitude est suivie d'une identité nouvelle donnée à Pierre. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Il ne lui dit pas « Tu me bâtiras une Église ». Il dit « Je bâtirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Fin de citation. Matthieu 16, 13 à 18. Alors, ce texte atteste plusieurs choses. Premièrement, la volonté de Jésus de bâtir lui-même son Église. C'est très clair. Très clair. Deuxièmement, sa volonté de donner à l'un des apôtres, Pierre, un rôle fondateur dans cette Église, un rôle de fondement. C'est Jésus qui bâtit, mais le fondement, la pierre, c'est Pierre. Simon transformé en pierre. Cette volonté du Christ laisse entière la question qui divise les chrétiens entre catholiques et protestants de savoir si ce rôle fondateur ou quelque chose de ce rôle est transmissible ou non à d'autres que Pierre. La réponse des catholiques et celle des protestants ne sont pas identiques. Je laisse ça de côté. Troisième attestation de ce texte, c'est que Pierre va assumer une fonction de médiation et qu'il l'assume dans sa profession de foi elle-même. Alors, les exégètes de ce texte font le rapprochement avec, voient dans le texte, un rapprochement voulu, volontaire, avec ce qui se passait le jour du Kippour, le jour du grand pardon, au temple, où le grand prêtre pénétrait dans le saint des saints du temple et prononçait le nom divin. Or, l'évangéliste a situé la scène précisément à ce moment-là. Et donc, Pierre, en prononçant le nom qui révèle l'identité de Jésus, prend le relais du grand prêtre qui, au temple, prononçait le nom divin. Et le grand prêtre ne se contentait pas de faire cela, il aspergeait l'arche d'alliance avec le sang de la victime pour délier le peuple de ses péchés. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, Jésus transfère à Pierre la fonction de médiation du grand prêtre en Israël, c'est-à-dire la fonction de retenir ou de pardonner les péchés, fonction de médiation du sacerdoce apostolique qui découle elle aussi de la volonté du Christ. On a dans ce texte pas seulement la volonté du Christ de fonder l'Église, mais la volonté du Christ de la fonder en transmettant, en donnant une fonction de médiation à ceux qu'il prépose à conduire cette Église. L'Église, donc, apparaît ici comme une réalité mystique qui accomplit le peuple de Dieu. Et ensuite, une des premières descriptions de l'Église que nous ayons, c'est celle que nous avons au début des Actes des Apôtres, chapitre 4. Vous savez, cette communauté rêvée, c'est absolument rêvée, hein, qui n'a qu'un cœur et qu'une âme, et puis personne n'a rien qui lui soit propre, on met tout en commun, et puis on s'entend bien, comme c'est beau, c'est absolument merveilleux. On se dit, ça a sûrement été écrit pour nous rendre jaloux. C'est probablement pour ça que ça a été écrit, d'ailleurs, pour nous rendre jaloux. Pour qu'on se dise, eh bien, nom d'un chien, on n'en est pas tout à fait là. Bon, Alors, si l'on n'est pas tout à fait là, il y a peut-être des choses à faire pour s'en rapprocher, au moins. Unité, en tout cas, issue de l'amour fraternel, qui se traduit par des actes concrets de partage, de pardon, de prière, déjà, d'abord. Tout est fait pour nous dire que cette unité n'est ni de sang, ni de cooptation. Ce n'est pas une unité de sang, parce que ce n'est pas parce qu'on est issu de parents qui font partie de cette communauté qu'on en fait nécessairement partie. On n'est pas chrétien par naissance, alors qu'on est juif par naissance. On n'est pas chrétien par naissance. Et ce n'est pas non plus une unité de cooptation, comme le club des pêcheurs à la ligne, parce que, justement, les membres de cette communauté, eh bien, ils ont tout à coup perçu que Dieu les appelait à en faire partie. Et bien sûr, s'ils n'avaient pas ratifié ce choix de Dieu, rien ne se serait produit, mais l'élection se prolonge dans l'Église. Elle n'est pas propre à Israël tout seul. Et l'unité qui est celle de cette communauté vient d'un principe d'unité qui, lui, est nouveau et que le Nouveau Testament appelle l'Esprit Saint. Ce n'est pas pour rien si tout ça se passe après la Pentecôte. L'Église ne pourrait pas exister si l'Esprit Saint n'était pas donné. L'existence même de l'Église, par conséquent, atteste que la fin des temps est arrivée, puisque si l'on en croit au moins le prophète Joël, qui, vous le savez, est le premier prophète qui est cité par la jeune Église dans la bouche de Pierre le jour de la Pentecôte, eh bien Joël dit « à la fin des temps, vos enfants et vos petits-enfants auront des visions, et puis je répandrai mon esprit sur toute chair. » Voilà. Pas simplement sur certains prophètes, certains rois, certains personnages particulièrement hors pair, mais sur tout le monde. Voilà. Cela signifie donc que non seulement Dieu a mené à bien son plan, mais aussi qu'en le menant à bien, il a donné quelque chose qui lui appartient en propre, plutôt que quelque chose quelqu'un, l'Esprit Saint, et donc d'une certaine façon, il s'est donné lui-même à l'humanité. Ce qu'il avait déjà commencé à faire, bien sûr, mais qu'il n'avait pas fait à ce degré-là, qui est un degré de plénitude. L'Église n'est pas d'abord, par conséquent, une organisation structurée de telle ou telle manière, elle est un peuple, une communauté humaine, dont la racine est la Trinité sainte. La définition de l'Église n'est pas d'abord d'être constituée de clercs et de laïcs, n'est pas d'abord d'avoir à sa tête un pape et des évêques, n'est pas d'abord d'être situé au Vatican ou je ne sais où. La définition de l'Église, c'est d'être peuple de Dieu, ce qui dans le langage du Nouveau Testament veut dire le Père, peuple de Dieu le Père, corps du Christ le Fils et temple de l'Esprit. C'est une définition trinitaire. Et à l'intérieur de cette réalité trinitaire, chacun d'entre nous est enfant du Père, frère ou sœur du Christ et temple de l'Esprit. Notre carte d'identité est trinitaire. Bref, pour reprendre le mot célèbre du père de Lubac, l'Église est une mystérieuse extension de la Trinité dans le temps. Mystérieuse extension de la Trinité dans le temps. Je termine sur mon troisième point, les opacités de l'Église. Après cet envol, nous sommes partis dans la stratosphère, eh bien, il reste que la définition théologique et mystique de l'Église se heurte à ce que j'appelle ses opacités. Et que là, c'est un autre « à quoi bon ?» qui est l'à quoi bon que nous devons entendre, et qui peut-être résonne souvent en nous, de celui ou celle qui se dit « tout ce que je lis sur l'Église ou tout ce qu'on me dit de l'Église » se heurte quand même aux opacités que je vois en elle. Alors, comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je me tirer de cette situation? Et si je m'en tire à trop bon compte, est-ce que je prends vraiment au sérieux ce que je constate dans l'Église? Le catéchisme affirme hardiment, numéro 761, « Le rassemblement de l'Église est la réaction de Dieu au chaos provoqué par le péché. Voilà. » Nous avons le cosmos créé par Dieu, le péché fait du cosmos un chaos, tout part dans tous les sens, tout se désagrège, tout va à volo, et Dieu rassemble ce chaos pour faire un nouveau cosmos, et ce cosmos s'appelle l'Église. Origène, un père de l'Église, disait « l'Église, c'est le monde quand il est illuminé par le Sauveur ». C'est une définition admirable. L'Église, c'est le monde quand il est illuminé par le Sauveur. Mais justement, l'Église, dont la raison d'être est d'être épiphanie de Dieu et de sa sainteté, de sa beauté, je rappelle que le mot « cosmos » évoque la beauté, ça a donné « cosmétique » en français d'ailleurs. « Cosmétique », c'est pour se faire beau. Eh bien, l'Église, dont la raison d'être est d'être épiphanie, manifestation de la sainteté de Dieu, de sa beauté, de sa bonté, et n'est pas toujours ainsi, et n'a pas toujours été ainsi, et ne sera pas toujours ainsi. Ce que le Concile exprime en disant que l'Église est à la fois sainte et composée de pécheurs. À la fois sainte et composée de pécheurs. Alors voilà une belle manière de pratiquer l'esquive, diront certains. Ah, elle est sainte en façade, et puis à l'intérieur, il y a tout ce qu'on veut, et surtout ce qu'on ne veut pas. Comment le Concile tient-il les deux affirmations? Ça me paraît tout à fait essentiel. Eh bien, il tient les deux affirmations, l'Église est sainte et composée de pécheurs, qui nous paraissent un peu comme une esquive, en confessant, c'est une affirmation de foi, que l'Église est sanctifiante, c'est-à-dire qu'elle est capable de communiquer la sainteté. Voilà, l'Église est sainte en ce sens qu'elle est capable de communiquer la sainteté. Je cite le credo du peuple de Dieu de Paul VI, cité dans le catéchisme. « L'Église est sainte, tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit-Saint. » Et le texte de Paul VI tient les deux. Elle souffre et fait pénitence pour ses fautes. Ses fautes, CES. Ses fautes qui sont en elle. Ah. « Dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit-Saint. » Elle est à la fois composée de pécheurs et capable de sanctifier. Alors ceci m'apparaît de la plus haute importance. L'utilité de l'Église... À quoi bon l'Église, je n'ai pas oublié la question, est une utilité pour la sainteté. Et la réponse positive, à mon avis, à la question à quoi bon l'Église, n'est pas de l'ordre du fameux bilan globalement positif dont parlaient les marxistes à propos de l'histoire du communisme. Il s'agissait par là de démontrer que les avantages du régime communiste l'emportaient sur ses effets pervers. Donc voilà, on mettait les avantages sur un côté de la balance, les effets pervers sur l'autre. Ça penchait plutôt du côté des avantages, bilan globalement positif. Ce n'est pas du tout ce type de raisonnement, parce que en ce qui concerne l'Église, la seule question, la seule, c'est de savoir si elle a vraiment, vraiment le pouvoir de sanctifier. Si elle a vraiment le pouvoir de sanctifier. Et la réponse à cette question, c'est le fait que ce pouvoir, nous pouvons le constater... Parce que l'Église fait des saints. C'est le fait de la sainteté que nous pouvons constater. Je cite de nouveau le catéchisme, et ce sera ma conclusion. En canonisant certains fidèles, c'est-à-dire en proclamant solennellement que ces fidèles ont vécu dans la fidélité à la grâce de Dieu, l'Église reconnaît la puissance de l'esprit de sainteté qui est en elle. Voilà. Elle ne s'auto-glorifie pas. Elle reconnaît la puissance de l'esprit de sainteté qui est en elle. En effet, la sainteté est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. Et le texte ajoute, en la personne de la Vierge Marie, l'Église atteint déjà à la perfection qui l'a fait sans tache ni ride. En elle, l'Église est déjà la toute sainte. En elle, l'Église est déjà la toute sainte. C'est ce que dit la préface de l'Assomption. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance du peuple de Dieu encore en chemin. S'il n'y avait pas Marie, on pourrait désespérer de l'Église. Mais parce qu'il y a Marie, l'Église est vraiment l'Église, et elle l'est dès maintenant.